Bonsoir, merci d'être si nombreux pour cette rencontre avec Célimène Daudet. Je suis Séverine Garnier, je suis journaliste spécialisée dans la musique classique et j'aurai le plaisir de poser quelques questions à Célimène. Nous avons convenu que je vais vous introduire juste un peu un morceau qu'elle va jouer et après nous discuterons. Alors c'est un morceau d'Olivier Messiaen, puisque le disque qui est un peu notre... notre prétexte à cette rencontre et croise des pièces d'Olivier Messiaen et des pièces de Claude Debussy. Et alors, il y a une très belle histoire à propos d'Olivier Messiaen. C'est que je ne sais pas si vous savez que sa mère était poète. Et je me suis dit, voilà, on est à la librairie Mola, on va parler aussi un peu de littérature. Sa mère était une très belle poétesse et quand elle était enceinte d'Olivier Messiaen, du futur Olivier Messiaen, elle a écrit un très beau recueil qui s'appelle « L'âme en bourgeon » dans lequel elle s'adresse à l'enfant qui va naître. Elle l'imagine et elle ressent des choses et elle va écrire quelque chose d'assez, comment dire, magique puisqu'elle anticipe déjà la passion qu'Olivier Messiaen aura pour les oiseaux. C'était un compositeur vraiment presque obsessionnel du son des oiseaux et on va entendre tout à l'heure comment il a réussi à le mettre en musique. Et voilà ce qu'elle écrit. « Voici tout l'Orient qui chante dans mon être, avec ses oiseaux bleus, avec ses papillons. » Et plus tard, elle écrit « Aussi, quand tu feras plus tard tes premiers pas, la rose, le soleil, l'arbre, la tourterelle auront pour le regard de ta grâce nouvelle des gestes familiers que tu reconnaîtras. » Nous allons écouter La Colombe d'Olivier Messiaen. Merci beaucoup.
Merci et bonsoir.
Peut-être on va commencer par vous présenter, Célimène.
Avec plaisir.
D'abord, peut-être dire que, au contraire de beaucoup de vos confrères et consœurs pianistes, vous avez découvert le piano assez tard dans votre vie.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai démarré par un semblant d'éducation artistique au sens large où j'avais des cours à l'âge de 8 ou 9 ans, des cours de chant, de danse. On nous faisait découvrir l'univers des sons et tout ça, ça se passait à l'île Maurice où j'habitais à cette époque-là. C'est un endroit paradisiaque et j'habitais là-bas pour le travail de mes parents à l'époque. Et on a jugé bon de m'inscrire dans ce cours d'initiation artistique. Où en fait, je pense, simplement eu un aperçu de ce que c'était qu'être avec des copains et puis faire la fête le mercredi après-midi avec ses copains autour de sonorités agréables, mais c'est pas aller plus loin. Et puis ensuite, on est rentré en France, je rentrais en sixième, donc j'avais 11 ans. Et j'avais des copains d'école qui faisaient du piano. Et puis j'ai eu envie moi aussi de faire du piano. Je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens. Alors c'était quelque chose d'assez étranger pour moi. Mais j'ai eu cette envie de faire du piano. On m'a inscrit à des cours de piano au conservatoire d'Aix-en-Provence, qui est ma ville natale. Et j'ai eu une forme de coup de foudre en fait pour cet instrument. J'ai senti, enfin je me le suis expliqué plus tard, mais j'ai senti que je voulais passer toute ma vie avec cet instrument. J'avais une forme d'obsession pour le piano. Quand je rentrais de l'école, je me jetais sur mon piano. Quand on partait en week-end, c'était le déchirement. Je passais mon temps à le nettoyer, à enlever les traces de doigts, la poussière. Enfin, c'était assez fou. Mais j'ai tout de suite eu cet amour pour le piano et la musique en général. Et puis j'avais un professeur au conservatoire d'Aix qui s'appelle Michel Bourdoncle et qui m'a tout de suite donné le goût de la scène. Même quand on était tout débutant, il nous faisait jouer. Il nous disait c'est le concert de la semaine. Chaque semaine, on jouait en concert. En fait, c'était des vrais concerts d'enfants, mais on jouait. Et j'ai eu ces premières expériences de scène en fait tout de suite. Et je pense que ça a contribué à me pousser dans cette voie.
Alors, quelque chose qui vous caractérise, et c'est effectivement cet amour, j'ai envie de dire, du voyage, ou en tout cas de la découverte d'autres horizons. Et on le voit avec cette confrontation dans ce disque entre Debussy et Messiaen. Donc, Messiaen, on peut en parler un peu, a beaucoup voyagé, notamment au Japon, un pays qu'il adorait. Debussy a été moins voyagé, voire très peu, je crois.
Il n'a pas du tout voyagé.
Il n'a pas du tout quitté la France. Mais par contre, il a beaucoup écrit sur l'Espagne, sur des univers étrangers.
Oui, alors Debussy disait « Si on n'a pas les moyens de voyager, il faut y suppléer par l'imagination ». Et en fait, c'est ce qu'il a fait dans sa musique. Pour moi, la musique de Debussy, c'est avant tout une musique qui permet à l'imagination de se libérer. Une musique extrêmement poétique et qui nous permet de voyager dans des contrées lointaines, que ce soit des pays lointains ou aussi des univers imaginaires, avoir une vision de paysage, de personnage pour certaines de ses œuvres. Là, dans les préludes que je viens d'enregistrer, qui viennent de sortir, chaque prélude décrit, si je peux dire, un état d'esprit, une ambiance, une image, etc. Enfin, si je dis décrit, le mot est un peu fort parce qu'en fait, c'est plutôt suggère. Il suggère. C'est pas une description à proprement parler. C'est simplement une suggestion, et c'est d'autant plus suggéré que Debussy inscrit un titre à chaque fois très évocateur pour chacun des préludes, mais à la fin des morceaux. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez une partition, voilà, on ouvre la partition, et normalement, on a le titre au début. Et chez Debussy, c'est pas du tout comme ça. On a de la musique au début, pendant plusieurs pages, et puis à la fin du prélude, il écrit trois petits points. Brouillard, par exemple, ou trois petits points, feuilles mortes. Et ça, c'est aussi pour moi, c'est peut-être mon interprétation qui juge ainsi les choses, mais c'est pour moi l'idée vraiment de la suggestion. Cela pourrait être du brouillard, ou cela pourrait être autre chose, libre à vous et à votre imagination de faire le voyage. Et donc, c'est une musique qui laisse, à mon sens, énormément de liberté à l'auditeur, à supposer que l'auditeur accepte de se laisser emporté dans un voyage peut-être inhabituel, parce que les codes musicaux sont totalement brisés. On n'a pas, dans la musique dite classique, on a souvent des codes de forme. On a un premier thème, un deuxième thème, une forme qu'on peut identifier. Enfin, on a des codes d'écoute qui nous permettent de nous repérer. Chez Debussy, c'est un petit peu moins le cas. Mais justement, je trouve que ça laisse aussi une part de subjectivité et de liberté à chacun d'entre nous quand on écoute cette musique, et d'essayer de l'écouter avec un sentiment de liberté, sans s'attacher à ce qu'on connaît déjà, se laisser porter par les sons qui sont autant de... Les sons sont chez Debussy des couleurs, par exemple. Le temps devient de l'espace. Il y a une notion de temps qui est complètement brisée, en fait. On n'a pas une notion de temps musical telle qu'on a l'habitude de l'entendre. On est comme en suspension, en quelque sorte. Et puis, on parlait du voyage, et c'est vrai qu'il y a certains préludes, je vous en jouerai peut-être un ensuite, qui évoquent l'Espagne, et Debussy n'est jamais allé en Espagne, et pourtant, on se croit en Espagne avec un rythme de habanera très caractéristique de la musique espagnole. Il a simplement reçu une carte postale de son ami Manuel de Falla, compositeur espagnol, du palais de l'Alhambra en Espagne, et puis il a écrit un prélude qui s'appelle La Puerta del Vino, pardon pour l'accent, et qui évoque ce palais de l'Alhambra.
Et il y a un vrai compagnonnage entre ces deux compositeurs, parce que Messiaen aussi, il met des titres, et La Colombe, on parlait tout à l'heure, mais voilà, tout le catalogue des oiseaux, à chaque fois, il met l'animal qui l'a inspiré. Non seulement ça guide l'auditeur, mais il y a l'effet aussi, c'est presque une tradition française de nommer comme ça, de mettre des titres, c'est du marketing avant l'heure.
C'est une vraie tradition française, parce que déjà chez Couperin, par exemple, on trouve des titres qui sont très poétiques, et chez Rameau également. Et puis dans ces préludes français, donc Debussy et Messiaen, il y a des titres qui sont très évocateurs. Et à nouveau, chez Messiaen, on retrouve des suggestions de paysages, d'états, d'ambiances, et avec des titres très poétiques. Par exemple, si je vous donne comme titre « Les sons impalpables du rêve »,
Comment on joue les sons impalpables du rêve?
Comment on joue ça? Bon, chant d'extase dans un paysage triste. Voilà. Alors, ça vous laisse laisser votre imagination voguer sur ces mots. Moi, je trouve ça assez porteur en tant qu'interprète d'avoir ces titres, mais de pouvoir y mettre un peu ce qu'on veut à l'intérieur et de pouvoir rêver avec ces titres et donc voyager. Et le point commun pour moi, enfin, entre ces deux compositeurs, ce qui m'a conduit à les rassembler sur un même disque, c'est cette question de la couleur, justement, de la couleur sonore.
Peut-être la question la pire que je peux vous poser, mais désolée, vous avez le droit à un joker. Hein. Comment on explique ce que c'est qu'une couleur en musique?
Joker. Non, alors, comment expliquer ce que c'est qu'une couleur? Je dirais que c'est la manière de mélanger les sons, un peu comme ferait un peintre avec une palette de peintre. Et au lieu d'avoir de manière brute du rouge, du bleu, du jaune, on les mélange et on obtient quelque chose d'indicible, enfin qu'on ne peut pas vraiment nommer.
Plus nuancé.
Et la couleur en musique, elle se fabrique aussi comme ça, par le mélange très subtil de sons, de notes choisies par le compositeur, d'harmonie, ce mélange très subtil d'harmonie, qui peut parfois frotter à l'oreille, mais qui crée en fait une nouvelle perspective sonore. On peut parler aussi, j'aime bien parler aussi de texture sonore chez Debussy. On pourrait avoir l'impression de toucher des matières différentes, ou aussi de parfums. Enfin, tous ces termes, couleur, texture, parfum, peuvent s'appliquer à cet univers sonore.
Et alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, je crois, la kinesthésie, qui est le fait de voir des couleurs en fonction de certaines harmonies. Je sais que Messiaen disait ça, de certaines tonalités, lui évoquait du violet, du bleu.
Oui, Messiaen avait cette faculté d'associer des couleurs au son. Peut-être que certains d'entre vous le vivent aussi comme ça, parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins inné, de pouvoir d'associer différents sens, en fait, de pouvoir, en sentant un parfum, avoir une couleur qui émerge. Alors c'est vrai que pour Messiaen c'était le cas, et pour chacun des préludes il a inscrit une couleur. Alors par exemple, je les connais pas par cœur parce que c'est à chaque fois très subtil. La colombe que je viens de vous jouer, pour lui c'est orangé veiné de violet. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a bien plus compliqué encore. Enfin, je vous dévoile pas tout, mais lui s'est amusé en tout cas à associer directement des couleurs qu'il voyait en fonction des harmonies qu'il écrivait. Mais au-delà de ça, de cette capacité qu'il avait, c'est vrai qu'il a aussi su créer un monde fait de couleurs et d'espace, au sens espace-temps, dans sa musique. Et on sait qu'il avait une fascination pour la musique de Debussy, même s'il n'a pas du tout étudié avec Debussy. Les préludes de Debussy ont été composés en fait en 1912-1913, plutôt à la fin de la vie de Debussy, qui est mort en 1918. Et les préludes de Messiaen ont été composés une quinzaine d'années après, en 1928. Ces préludes sont la première œuvre de Messiaen. Donc d'un côté, on a l'œuvre d'un compositeur mûr, l'œuvre de Debussy, et de l'autre, l'œuvre d'un jeune, tout jeune compositeur d'une vingtaine d'années à peine. Et ces préludes de Messiaen sont sa première œuvre assumée. Il disait lui-même que c'est la première œuvre dont il était à peu près fier.
Et est-ce qu'on sait s'il avait s'il avait joué les préludes de Debussy ou s'ils avaient entendu.
On sait qu'il les a beaucoup analysés, annotés, analysés scrupuleusement. Donc ça a été pour lui une source d'apprentissage et d'inspiration. Et il a aussi été fasciné par Pélias et Mélisande de Debussy, qu'il a découvert à l'âge de 10 ans seulement, en 1918 justement, à l'année de la mort de Debussy. Messiaen découvre la partition de Pélias et Mélisande, et il a 10 ans et il est complètement déjà happé par cet univers. Et donc finalement, sans que Debussy soit un maître au sens propre, soit vraiment l'enseignant de Messiaen, ça n'a pas été le cas de manière officielle, mais ça a été vraiment une source d'inspiration, une influence implicite pour lui. Moi, j'avais depuis très longtemps, je joue les préludes de Debussy depuis mes années d'adolescence. Et je les ai beaucoup joués en concert. Et les préludes de Messiaen, je les ai découverts plus tard, en fait. Le jour où je les ai découverts, j'ai eu une forme d'évidence. Enfin, ça s'est vraiment imposé à moi qu'il y avait une filiation, une vraie correspondance entre ces deux recueils. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les rassembler? Parce que ça permet d'entendre Messiaen. Entendre Messiaen à la lumière de Debussy le fait entendre différemment, mais entendre aussi Debussy à la lumière de Messiaen fait ressortir toute la modernité aussi de Debussy. Je trouve que ça a un double regard qui était intéressant. Donc voilà.
Est-ce que vous voulez jouer un peu?
Je peux vous jouer l'évocation de l'Espagne, si ça vous tente.
Thank you.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette proximité dans l'écriture chez Messiaen et chez Debussy, dans cette notion d'espace. Effectivement, on a l'impression qu'ils étirent le temps l'un et l'autre. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur Bach, qui paraît complètement à l'opposé, celui qui veut marquer le temps. Est-ce que je vois juste ou sur l'opposition entre les deux ?
Oui, alors c'est vrai que c'est des écritures vraiment très très différentes. Opposées, je ne sais pas. Il y a quand même tout le travail que j'ai fait sur Bach m'a énormément apporté pour le travail de Debussy et Messiaen, notamment sur un point, c'est la question du contrepoint, ce qu'on appelle le contrepoint. Donc c'est le fait de superposer des différentes voix. Chez Bach, c'est le grand maître du contrepoint, où le musicien doit être capable, avec deux mains, de jouer par exemple quatre voix différentes, et que ces voix soient distinctes, suivies, et que ça ne se mélange pas. C'est une façon un peu rapide de résumer le contrepoint, mais il faudrait revenir pour faire une conférence sur le contrepoint. Et c'est vrai que dans la musique de Debussy et Messiaen, ces couleurs sonores, mais aussi cette notion d'espace, c'est le fait d'avoir plusieurs plans sonores et de pouvoir gérer ces plans différents avec un timbre, un son particulier à chacun de ces plans. Ça exige un travail de l'oreille très, très, très important qui, je pense, en tout cas, pour lequel Bach m'a beaucoup aidée, ça c'est sûr. Donc il y a quand même je trouve que chaque musique, même si elle est différente, permet de se nourrir l'une l'autre, en fait. C'est pas forcément une opposition. Après, pour ce qui est du temps musical, c'est vrai que la musique de Bach est très inscrite dans un cadre de mesure qui est pas rigide, mais qui est en tout cas imposé, mais moins imposé que ce qu'il n'y paraît quand même. Parfois, on a l'image d'une musique peut-être un peu carrée. En fait, c'est quand on écoute de la musique baroque, on se rend compte de l'immense liberté que les musiciens baroques peuvent avoir. Ensuite, le classicisme est passé par là et a peut-être un tout petit peu plus imposer un cadre, en tout cas rigidifier un peu les choses, mais c'est vrai que la musique baroque est une musique de la liberté et de l'improvisation. Alors pas dans tout, évidemment, quand on joue une fugue de Bach, on est un peu tenu par une forme, etc. Mais c'est vrai que chez Bach, il y a aussi une grande liberté qui est possible, et peut-être plus que chez Debussy, paradoxalement.
C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Au XXe siècle, comment...
La musique de Debussy et celle de Messiaen, mais encore plus celle de Debussy, et vraiment, c'est un enfer pour l'interprète, parce que tout est écrit, tout est imposé. Alors, si je pouvais vous faire circuler une partition, vous verriez qu'il y a un signe par note. Une indication de comment un trait, un point, une liaison, enfin comment phraser, comment poser la note, tout est indiqué absolument partout. Donc c'est vraiment une vraie dictature pour l'interprète. Et en même temps, ça doit sonner presque comme une musique improvisée. Donc tous ces préludes, pour moi, sont presque comme des petites improvisations, des moments comme ça, des instants. Presque improvisés, et en réalité ils sont écrits de manière extrêmement précise, alors que chez Bach, en fait, on a beaucoup moins d'indications. On a les notes et le rythme et c'est tout, quasiment. On n'a pas d'indication de phrasé, de nuance, donc finalement on est presque plus libre, en fait.
Et chez Messiaen, donc, qui écrit
chez Messiaen, c'est plus proche de Debussy. Tout est très dit, très indiqué, très dicté, en fait. C'est des compositeurs qui avait une idée très claire de ce qu'il voulait entendre, en fait. La musique de Bach était parfois, je dis parfois parce que je ne peux pas généraliser, mais parfois une musique écrite un peu de manière absolue, la musique dans l'absolu, pas forcément destinée à être immédiatement interprétée. Mmh. Alors que chez Debussy et Messiaen, c'était des œuvres qui étaient destinées à être interprétées aussitôt écrites, donc avec un détail, tout le détail donné à l'interprète et laissant très peu de place, en fait, à l'interprète.
On a de la place. On ose ne pas tout faire, ce qui est écrit sur la partition, on a le droit ou on se le permet ou des collègues viendront vous.
Je pense qu'on a, en fait, on a tous les droits, mais est-ce qu'on a envie de... Après, c'est une question d'envie. Moi, j'aime bien essayer de me rapprocher le plus possible de ce que le compositeur a souhaité, tout en n'en étant pas prisonnière, en fait. Mais ça demande énormément de temps. C'est le temps d'intégration d'un texte, de vraiment essayer d'assimiler tous les détails. Mais ensuite, les oublier en quelque sorte et en faire sa langue à soi en fait. Mais je trouve que c'est, enfin moi mon métier d'interprète, c'est comme ça que je l'aime en fait, c'est pouvoir être le plus proche possible du compositeur, mais m'accorder suffisamment de temps de travail et de maturation des œuvres pour ensuite que cette musique soit aussi la mienne.
Comment, quand on enregistre un disque, quel est le processus de travail? Est-ce que vous allez le travailler très longtemps seul, l'expérimenter au concert et après l'enregistrer, par exemple?
Ben ça, je pense que c'est très personnel. En ce qui me concerne, moi, je n'enregistre que ce que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup expérimenté en concert. Le concert, en fait, c'est une grande leçon de travail. On apprend parfois beaucoup plus en ayant fait un concert qu'en ayant travaillé 15 jours enfermé chez soi. On a une autre vision des pièces qu'on a jouées, du déroulement du temps musical. Enfin, on apprend énormément. Donc, je pense qu'enregistrer sans avoir joué, enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas envisageable. Donc, je travaille un répertoire pendant des mois, parfois des années, sans même penser à l'enregistrer. Et puis, à un moment donné, je me dis que je pense que c'est mûr pour être fixé. Même si déjà aujourd'hui, je pense que je ne les joue plus du tout comme sur le disque. Je crois.
On essaie de voir.
Alors, qu'est-ce que je peux vous jouer? Je vais vous jouer un autre Debussy, alors. Complètement différent. Il y a tellement de choix. Peut-être les brouillards, le premier dont je vous parlais. Alors, avant de le jouer, je vous explique peut-être en deux mots ce qui fait que ça sonne brouillard. Parce que c'est...
Vous mettez plein de pédales, non?
Ben non, justement, je mets de la pédale, mais pas trop. Juste en passant une petite parenthèse, la pédale chez Debussy et chez Messiaen, c'est la troisième main, vraiment. C'est un élément très important et très virtuose, en fait. Quand je parle de la pédale, je parle de la pédale de droite qui permet de faire résonner tout cet instrument. Mais on peut la doser, cette pédale, la mettre un quart, un demi, entièrement, la vibrer, la relever plus ou moins vite, etc. Et en fait, c'est ce qui participe aussi à la création de la couleur chez Debussy. Alors, les brouillards au pluriel, en fait, ils superposent les touches noires et les touches blanches. Alors, si on s'amuse à faire ça, d'habitude, ça sonne comme ça. Là, j'ai superposé les touches noires et les touches blanches, donc c'est très dissonant. Mais lui, il le fait de manière très subtile, ce qui crée justement une sensation de flou ou de vision un peu floutée, comme on peut l'avoir dans un paysage de brouillard. Mais le brouillard, c'est intéressant quand on distingue des petites lumières. C'est là que ça devient intéressant, parce que passer du temps dans le brouillard, on s'en lasse. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre cet aspect un peu dans lequel on est perdu, et puis des petites touches de lumière. Et alors, vous allez entendre que par moment, il y a des petits éclats lumineux et parfois même des jaillissements lumineux plus importants avant de retourner au brouillard. Donc, c'est un petit voyage entre l'ombre et la lumière, ou le brouillard et les éclaircies.
Thank you.
Je voudrais qu'on reparle un peu d'Olivier Messiaen et de cette fascination pour les oiseaux qui sont l'objet aussi de ces préludes. D'abord, vous avez réuni deux groupes de préludes, deux cahiers de préludes, et ce terme prélude, il n'évoque plus grand-chose à ce moment-là du XXe siècle.
Oui, c'est vrai qu'avant, on préludait à quelque chose. Donc, on préludait à une fugue et on préludait à une suite de danse. Enfin, il y avait un prélude à quelque chose. Ensuite, à partir de Chopin, quasiment, le prélude est devenu une petite pièce à part entière. La caractéristique du prélude de Chopin jusqu'à ceux de Messiaen et de Debussy, c'est, je dirais, d'être des pièces assez courtes, au caractère très... très défini, on peut tout de suite être saisi pris dans une ambiance. Il n'y a pas une progression avant de rentrer dans la pièce. On est vraiment tout de suite au cœur d'un état. Et c'est vrai que je pense que c'est Chopin qui a lancé ce. En tout cas, à partir de Chopin, il y a eu déjà le nombre de préludes. 24 préludes de Chopin. Il y a 24 préludes de Debussy. Là, j'en joue qu'un seul cahier, donc il y en a que 12, mais il y a deux cahiers chacun de 12 préludes. Il y a eu des préludes de Scriabine, préludes de Rachmaninoff, enfin énormément de compositeurs se sont frottés au genre. Enfin, je dis le genre, et c'est pas vraiment un genre le prélude justement. C'est pas une forme, voilà. C'est une œuvre qui n'a pas de forme.
Une excuse pour faire court et
court, mais vraiment instantané, voilà, comme une photographie, un instantané. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve qu'en très peu de temps, on doit arriver à créer quelque chose de singulier. Et chaque prélude est très différent, chacun est très différent les uns des autres, et c'est en fait complètement un défi même pour moi en tant qu'interprète d'arriver à tout de suite essayer de capter ce qui fait l'essence de chacun des préludes et essayer de le transmettre au public.
Alors avec Brouillard, c'était une évidence, ce brouillard mis en musique. Est-ce que pour Messiaen, on a cette même évidence? Je ne connais pas assez bien la colombe pour vraiment savoir si ce qu'on a entendu tout à l'heure évoque une colombe. Mais...
Alors il y a l'évocation d'oiseaux avec des petites notes dans l'aigu. Je peux vous les refaire si vous voulez, juste les toutes petites notes dans l'aigu. Vous allez entendre que ça fait un peu des petits bruits d'oiseaux. Voilà, on entend des petits pépiments d'oiseaux comme ça. Et c'est le leitmotiv, c'est-à-dire que ce motif-là revient tout au long du prélude. Et à chaque fois, c'est subtil, parce que c'est vrai que ce n'est pas la partie principale. Il y a un chant qui se déploie en dessous de ça. Mais on a toujours cette petite évocation d'un oiseau.
Et alors, dans les autres préludes, il y a, donc vous l'avez cité tout à l'heure, là, des noms très poétiques, les sons impalpables du rêve, mais on a aussi le nombre léger, oui. Instant défunt, plainte calme, reflet dans le vent. Oui. Est-ce que là, pour le coup, c'est un acte poétique un peu supplémentaire, ou vraiment dans la musique, vous ressentez...
Non, moi je trouve qu'on ressent, le titre peut tout à fait exprimer ce que la musique raconte. Par exemple, la plainte calme évoque pour moi vraiment une plainte. Est-ce qu'il y a des plaintes calmes? C'est intéressant parce que c'est souvent, il y a souvent une sorte d'opposition chant d'extase dans un paysage triste, par exemple. Il y a une opposition entre des états. Une plainte calme, alors oui, on peut être. J'ai l'image d'une. Quand on est on a ce sentiment de douloureux, pour moi, ça n'évoque pas forcément le calme. Et pourtant, Messiaen réussit à faire sentir. Un sentiment douloureux, mais avec un certain apaisement en même temps. Donc je peux vous jouer celui-là si vous voulez.
Bah, avec plaisir.
Plainte, puisque j'en parle.
À la demande, c'est formidable. c'est sublime. Ah, c'est magnifique. Il faut qu'on parle d'un projet étonnant que vous soutenez depuis quelques mois, peut-être un peu plus, qui est le projet d'amener des pianos en Haïti. Alors, quelle drôle d'idée.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Il n'y a pas de piano en Haïti?
Eh bien, il n'y en avait plus, mais maintenant, il y en a un très beau piano de concert. Alors, comment vous parler de ce projet en quelques minutes, puisque je pourrais en parler des jours entiers? En fait, je suis d'origine haïtienne du côté de ma mère. Moi, je suis à moitié français par mon père et à moitié haïtienne par ma mère. Alors, vous avez dû entendre parler d'Haïti en général pour les catastrophes naturelles, séismes, difficultés politiques, la pauvreté. Enfin, c'est un pays en difficulté, en grande difficulté, que je connaissais mal, en fait, que je connaissais à travers ce qu'on m'avait raconté à la maison quand j'étais enfant. Et puis, on a tous en nous... je pense la question parfois des racines ou des origines d'où on vient, qui étaient nos ancêtres, voilà. Est-ce que je viens vraiment de là où je viens? Est-ce qu'il n'y a pas une autre part de moi à explorer? Donc c'est vrai que j'ai été depuis quelques années un peu travaillée par ces questions-là, positivement travaillée. Hein, j'avais juste envie de connaître, et j'avais pas envie d'aller me balader en Haïti. Je sais pas, ça me semblait pas approprié d'aller faire du tourisme en Haïti alors que les gens vraiment meurent de faim pour certains. Vous allez me dire pourquoi apporter un piano quand les gens meurent de faim. J'anticipe la question, donc je vais y répondre. Donc je me suis dit que je voulais y faire quelque chose. Alors pour moi, ce que je sais faire, c'est la musique et du piano en particulier. Enfin, ce que je sais faire, en tout cas de manière professionnelle. Donc je me suis dit, j'aimerais aller jouer en Haïti déjà pour commencer, jouer pour les gens, donner un concert pour les gens qui sont en difficulté là-bas. Et puis on m'a donné comme réponse, oui, on aimerait beaucoup que tu viennes jouer, mais on trouve plus de pianos de concert. On trouve quelques pianos droits chez des particuliers ou dans des écoles de musique, etc. Mais il n'y a plus de pianos de concert, les derniers ayant été détruits dans le séisme en 2010. En plus des 300 000 morts, il y a eu des pianos détruits. Donc j'ai momentanément laissé tomber l'idée. Et en fait, ça a germé quand même en moi. Et je me suis dit, bah, très bien, s'il n'y a plus de piano, je dois en faire venir. Hein. Alors ça semblait complètement dingue comme ça, parce que bon, ça coûte très cher, c'est très compliqué. On n'amène pas un piano de concert comme ça à l'autre bout du monde.
Des conditions aussi météorologiques.
Météo, il y avait plein d'obstacles. Et voilà, donc je suis entourée de toute une équipe pour ça. J'ai monté ce projet en créant une association avec des amis, tous passionnés de musique, mais pas musiciens, et qui croyaient à ce projet. L'idée, c'était qu'autour d'un piano, on pourrait créer des moments uniques de beauté, et de partage, des moments rassembleurs, au-delà des différences sociales et autres. Donc j'avais cette conviction-là. Et puis en fait, on a été soutenus par énormément de gens anonymes, des donateurs, plein de gens du monde entier qui nous ont donné de l'argent, qui ont été sensibles à ce projet et qui nous ont permis d'acheter un très beau piano de concert qui a été livré en Haïti en octobre dernier. Qui est un piano particulier, il est tropicalisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de palmier qui pousse dedans, mais il est traité et fabriqué spécialement pour résister au climat tropicaux.
Formidable.
Oui, ça, je ne savais pas que ça existait.
C'est Steinway qui fait ça?
Non, c'est Yamaha qui fait ça.
C'est Yamaha.
Ouais, c'est les seuls qui font ça. À l'origine, pour les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont très très humides, mais en fait, ça s'applique très bien aux pays des Caraïbes.
Et donc, il est dans quelle salle?
Alors, il est là-bas, chez un de nos partenaires qui est américain, qui a une fondation américaine qui a créé une école qui forme des ingénieurs du son et des cinéastes haïtiens. Et donc, ils ont un très beau studio d'enregistrement. Il est là. Et entre-temps, on a monté un festival qui a eu lieu en novembre dernier avec plein d'artistes venus du monde entier, français, américains, canadiens, haïtiens. Enfin, Et on a fait ce festival pendant 15 jours avec des ateliers pour les enfants de création artistique, de composition, voilà. Enfin, c'était assez fort comme moment parce que pour moi, ça a été même une révélation de me rendre compte que la musique, en fait, était une vraie nécessité. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas de musique en Haïti, au contraire, il y a toute une musique traditionnelle. Et d'ailleurs, des musiciens traditionnels ont joué dans ce festival. J'ai voulu qu'on mélange nos cultures. Mais le fait de pouvoir créer un beau moment, vraiment, j'ai visité des lieux très beaux là-bas. On a fait des concerts dans une ancienne halle de stockage de café. Et en fait, c'est un vieux bâtiment qui était très bien préservé, mais qui ne servait plus à rien. Et donc, on a fait des concerts là, dans un très bel endroit. C'était gratuit, évidemment. Donc, les gens sont venus par milliers, en fait, à ce festival. Il y a eu des
Vous aurez les moyens de le refaire
Eh bien, je commence à chercher les moyens de le refaire. L'idée, c'est de le faire chaque année, au mois de novembre, parce qu'on a eu des réactions tellement fortes des gens et des enfants. Enfin, ça a été vraiment très bouleversant de voir à quel point ils étaient heureux qu'on fasse ça chez eux. Aussi, pour moi, c'était aussi une manière de dire tous les pays ont droit à leur lot de beauté, et que si on a des beaux festivals ici en France, pourquoi pas aller dans des pays qui sont plus en difficulté ? Pourquoi attendre que le pays soit complètement développé, si un jour il l'est, pour bénéficier de belles choses comme celle-ci ?
Alors, on va sur Internet pour soutenir.
Ah ben, on va sur Internet, oui. comme piano, toujours maintenant. Le projet s'appelle Haïti Piano Project. Alors, pourquoi en anglais ? Voilà. En anglais, parce qu'en fait, on a voulu toucher des gens du monde entier, et que maintenant, l'anglais est la langue internationale. Donc, Haïti Piano Project, il y a un site Internet, et on peut faire des dons, évidemment. Bon, alors je vais vous jouer, parce que Debussy avait beaucoup d'humour, alors c'était un humour assez grinçant par moment, il se moquait pas mal de différents personnages. Alors là, il s'agit d'un personnage qui s'appelle le général Lavine, qui était en fait un Américain à Paris pendant quelques années, qui faisait un spectacle de music-hall dans un des théâtres de Montmartre, et puis Debussy était allé y assister, et en même temps ça l'a inspiré, et en même temps il trouvait ça assez grotesque. Donc, il a utilisé un rythme de cakewalk, vous allez l'entendre. Il écrit d'ailleurs sur un rythme de cakewalk, c'est marqué au début de la partition. Au début de la partition, on n'a pas le titre qui est donné à la fin. Par contre, il nous dit qu'il faut jouer sur un rythme de cakewalk.
Voilà. Et alors, où est-ce qu'on trouve un rythme de cakewalk ? Parce que ce n'est pas une musique qu'on joue aujourd'hui, le cakewalk. C'est quoi ?
C'est un jazz du début du siècle américain et de la population noire américaine. Et donc, il s'est inspiré de ce rythme-là. Et on voit toute la moquerie que lui inspire ce général Lavine. Le titre exact, c'est « Général Lavine excentrique ».
Thank you.
Alors, je crois que
Allons-y, tutoyons-nous.
Voilà, tu vas pouvoir dédicacer des disques si
oui, avec plaisir.
Il vous prend de les acheter juste à la sortie. Et je vais terminer cette rencontre par une petite phrase issue de ton texte qui, à mon avis, résume bien ce que nous venons de vivre pendant une heure. L'impression est forte et rare, le temps est autre. Cette jungle d'idées nous invite à pénétrer au cœur d'un monde luxuriant où chaque ouvrage renferme les secrets d'un univers à lui seul. Bonne soirée.
Merci.